On ne doit pas attendre pour prier. D'ailleurs, le Seigneur nous donne un exemple. Quand il dit à Pierre, j'ai déjà prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il ne dit pas, une fois que tu seras tombé, je me mettrai à prier. Il prie avant.
Dieu nous a donné des bases pour le choix d'un conjoint et il nous a donné aussi une intelligence. Alors, quelle est la part de l'intelligence, de la raison dans ce choix?
C'est difficile de répondre parce que c'est toujours des questions un peu personnelles. Et là, tu demandes un vaste débat sur foi et raison qui pourrait prendre des heures. Je crois que, historiquement, la plupart des évangéliques ont un problème avec la raison. Étant donné que les mouvements évangéliques se sont développés contre le phénomène bien connu des Lumières au XVIIIe siècle, qui fondait tous les principes d'action de l'homme sur la raison, on a au XIXe, au XVIIIe déjà, puisque le grand réveil date du XVIIIe en réalité, on a, du moins en Angleterre, pas en France, mais on a beaucoup insisté sur la foi et on l'a beaucoup opposé à la raison. Et même aujourd'hui encore, on trouve beaucoup d'évangéliques qui ne veulent pas entendre parler de la raison. C'est une attitude déplorable. Parce que si, il faut bien comprendre que la foi, c'est d'une certaine manière, c'est vrai, un saut dans l'inconnu, mais l'inconnu pour le non-croyant. La parole de Dieu est quand même une ouverture. Nier l'importance de la raison, c'est faire outrage à Dieu qui l'a créé. Alors, c'est simple. Pour le chrétien, la foi est première et la raison est seconde. La raison ne dictera pas sa conduite. Ce qui dicte sa conduite, c'est la parole de Dieu, c'est la recherche de, je dirais, le rôle du Saint-Esprit, le secours du Saint-Esprit, l'exemple de Jésus-Christ dans les évangiles. C'est évidemment par la raison, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire des choses déraisonnables et on voit des choses étonnantes, je veux dire. Donc je crois que c'est cette foi, ce tandem foi-raison, dans le choix du mariage, il dépend beaucoup de chacun. Certains, c'est un peu comme un curseur, placeront 50% de raison ou 49%, parce que je veux pas qu'elle prime. Ça sera le maximum, et 51% de foi. D'autres placeront 90% de foi et 10% de raison, ou pas du tout. Je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il y a des gens qui se sont, comme Bernard l'a dit, engagés sans vraiment connaître le conjoint. Ce sont des gens qui ont certainement beaucoup de foi, parce que Dieu leur a dit, voilà, c'est celle-là ou celui-là. Mais Dieu ne nous force pas. À quelqu'un qui n'a pas cette mesure de foi, il ne va pas imposer quelqu'un. Et Dieu ne va pas imposer quelqu'un qui ne nous plaît pas. Si le garçon aime plutôt une belle jeune fille, ce qui me semble assez normal, eh bien, il ne forcera pas à épouser quelqu'un avec laquelle, physiquement, il ne pourra pas s'unir. Il y a là aussi un aspect de raisonnabilité. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la plupart des grands évangélistes et des acteurs du réveil, dans le domaine du mariage, ont généralement n'ont pas été bons du tout, notamment Wesley. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, et je pense que c'était lié essentiellement à leur service. Certains sont restés célibataires, en faisant des dégâts autour d'eux parfois sur des jeunes filles avec lesquelles ils auraient pu se marier et qui sont mortes de chagrin, c'est arrivé. D'autres se sont mariés plusieurs fois parce que les femmes décédaient rapidement, souvent. Il y a eu très souvent des vies conjugales perturbées pour souvent des raisons nobles, des raisons de service. Et des raisons de caractère, il faut le dire aussi souvent. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Mais ça, c'est plutôt une parenthèse.
Je veux dire, Daniel, le débat foi et raison est un débat difficile. Mais notre raison, elle est toujours guidée par quelque chose. Sous-tendue par quelque chose, notre intelligence aussi. Il y a ce qui nous anime. Notre époque, l'Europe en particulier, est caractérisée par ce qu'on a le siècle des Lumières, Descartes et tous les autres, qui faisait dire à des gens comme Pascal, qui était croyant, à propos de Descartes et de son discours sur la méthode, plaisante raison qu'un vent manie. Plaisante raison qu'un vent manie. C'est un beau commentaire. Vous avez beau invoquer votre raison pour vous faire progresser, mais il n'y a pas que cela. Vous avez un vent qui la manie, votre raison. Vous avez derrière quelque chose qui le sous-tend. Donc ce qui est important sans doute chez le chrétien qui est amené à exercer son intelligence, sa raison au sens noble du terme, sont les motifs qui le gouvernent, motifs qui font agir. Et si on a cet exercice de prière dont Daniel Gaillard a parlé tout à l'heure avec le Seigneur, il y a là des motifs qui aideront justement l'intelligence, qui l'amèneront là où il faut. Un cas typique de quelqu'un qui a agi en disant de toute façon je maîtrise, c'est Salomon, et qui a agi en ne voyant pas que la raison, sa raison, était perturbée par ce qui était sous-jacent. Il était roi en Israël, il avait tout sous sa domination, et il a pu dire intérieurement, je maîtrise, c'est égal que je prenne les femmes étrangères de toute façon, puisque c'est moi qui les ai dans ma maison et je fais ce que je veux. Intérieurement, c'est ce qu'il a pu dire probablement. Dieu dit pas d'histoire. Ça ne marche pas, ça. Dieu dit ça ne marche pas parce que c'est une mauvaise chose que tu fais. Et Salomon en a porté les conséquences. Mais extérieurement, il aurait pu dire, mais non, il n'y a pas de risque pour moi. Même problème que pour quelqu'un qui dirait, mais bon, la personne est incrédule, je maîtrise. Dieu dit non, vous ne pouvez pas maîtriser dans des conditions pareilles.
Il note bien son état d'esprit sur ce sujet. En Ecclésiaste 2,8, je me suis procuré des chanteuses, des concubines. On ne se procure pas une femme. Dieu la trouve pour vous, on peut la chercher, ce n'est pas interdit. Et Dieu la présente comme il a présenté Ève à Adam. Se procurer une femme, c'est l'état d'esprit du monde aujourd'hui. C'est ce qui animait Salomon, ça l'a perdu, et le peuple avec lui.
Par rapport à cet état d'esprit du monde aujourd'hui, ce que l'on voit, et ce que l'on voyait déjà de mon époque, en tant que jeune, quand j'étais jeune, il y avait sortir ensemble. Et aujourd'hui, chez les jeunes, donc c'est toujours le cas, sortir avec une fille, sortir avec un garçon. Mais je pense que pour nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas du tout interdit. Mais il faut faire attention. Il y a une limite à ne pas franchir. Donc on en a parlé un petit peu. La limite de la relation physique, la sexualité, celle-ci, c'est un plus que Dieu nous a donné. Et ce plus est réservé pour le mariage. Donc sortir ensemble, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour nous, pour nos jeunes, en tant que chrétiens? Je pense que c'est déjà apprendre à se connaître, à découvrir un petit peu l'autre, et avoir ce but ensemble de fonder un foyer chrétien. C'est le but de sortir ensemble. Ce n'est pas comme le but aujourd'hui dans le monde, d'avoir un palmarès, je suis sorti avec cette fille, celle-ci, etc. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous demande, mais c'est de commencer à penser à son avenir, à penser à construire le couple que Dieu veut pour nous. Ensuite, un autre point, de faire peut-être aussi attention, on a parlé de la prière, donc effectivement, c'est quand même très important et c'est le but, mais ce n'est pas parce qu'on va prier aussi avec quelqu'un, il faut prier, avant de se lancer, on va dire, dans le mariage, il faut bien sûr prier avec son futur conjoint, mais ce n'est pas parce qu'on va être sur la même, on va dire, longueur d'onde, qu'on va sentir un bien-être après ces moments de prière, que c'est peut-être la personne aussi, la personne que le Seigneur a placée. Donc là, il faut aussi de l'intelligence, cette sagesse qui nous vient de Dieu. Il peut arriver, et j'espère qu'il nous arrive de nous trouver avec des personnes, quand on est maintenant en couple, pour moi, mais aussi quand j'étais jeune, et d'avoir des moments de prière, des moments où nous étions heureux à prier entre jeunes. Mais ce n'est pas pour ça que les personnes avec qui on était en prière étaient automatiquement les personnes que Dieu nous avait demandé de prendre pour épouse, pour époux.
La décision est toujours une chose très difficile à prendre. Et on peut comprendre la difficulté que certains jeunes ont pour prendre cette décision. Et on peut les rassurer que beaucoup ont des difficultés à prendre cette décision, car on s'engage pour la vie. Si j'en parle maintenant, c'est parce que justement Daniel vient de m'y faire penser. Si justement on est sorti avec les uns et les autres, comme ça et plusieurs fois, Et si on prend quelqu'un parce qu'on l'aime, et puis après, que 15 jours après, on ne l'aime plus, donc on le laisse. Puis après, on prend quelqu'un d'autre parce qu'on l'aime de nouveau, puis après, on ne l'aime plus, on le laisse. Ce n'est pas se préparer pour la vie. Parce que si, déjà pendant notre jeunesse, on a pris et on a laissé, on ne se prépare pas pour quelque chose qui sera pour la vie où on prend et on ne laisse plus. Et en plus, je crois que Dieu est quelqu'un qui est quelqu'un de fidèle et qui aime les amitiés fidèles. Et ça, c'est important. La fidélité dans l'amitié. L'autre, particulièrement le sexe opposé, je vais être un petit peu dur, mais n'est pas inconsommable. Dans une société de consommation où on prend, on jette, eh bien, dans les amitiés, ce ne doit pas être ça. Et j'aimerais insister là-dessus, c'est que pour nos jeunes, c'est bien. L'amitié est une très bonne chose, mais il faut être fidèle dans ses amitiés. Et peut-être ne pas s'engager plus en avant quand c'est avec une personne avec qui on ne pourra pas se marier.
Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est quand on fait des activités pour le Seigneur, en groupe, jeunes gens, jeunes filles, on va être obligé d'œuvrer ensemble dans la même direction et ça crée des liens. Ça crée des liens très forts. Moi, dans l'exemple que j'ai eu l'occasion de faire des colonies évangéliques pour les enfants. Et il est vrai qu'on a des problèmes particuliers tous les jours avec les enfants, des problèmes, des questions que les enfants ont posées. Et tous les soirs, quand les enfants sont couchés, on a des sujets de prière très précis que l'on partage à plusieurs, on est des jeunes gens, des jeunes filles. Et le fait de partager, de se soutenir les uns les autres par la prière, ça crée des liens très forts entre moniteurs. Et il ne faut pas confondre ces liens avec une possibilité de mariage. Il faut apprendre à se connaître dans un autre cadre qu'un cadre où on a des liens particuliers. Parce que quand on est moniteur dans une colonie de vacances, on a tous un but commun, évangéliser des enfants. Et donc forcément, on est tous sur la même longueur d'onde. Forcément, on a tous des atomes crochus. Pour arriver à connaître quelqu'un, comme disait Daniel, oui, sortir avec, c'est-à-dire avoir des rencontres dans des cadres différents pour savoir si dans tous ces cadres-là, effectivement, on peut s'entendre, on peut s'engager sur la vie. Mais sortir ensemble, comme l'a souligné Bernard, j'insiste encore parce que je pense que c'est très important, ça ne veut pas dire collectionner les aventures. Sortir ensemble, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un, je pense que cette personne est peut-être celle que Dieu veut pour moi. J'apprends à mieux la connaître parce que mon but, c'est de passer ma vie avec cette personne. Mon but n'est pas de remplir un carnet d'adresses. Mon but, quand je rencontre quelqu'un, c'est de m'engager pour la vie. Et des fois, pour certaines personnes, il faut du temps pour avoir la conviction. Pour d'autres, ça va plus vite. Pour certains, il faut du temps. Ne nous engageons pas trop vite. Attendons d'être sûrs. Et ne nous engageons pas sur un coup de tête parce que nous avons fait une activité très forte ensemble. Prenons le temps d'être sûrs que c'est la décision du Seigneur.
Sur le fait de sortir ensemble, comme vient de dire Daniel, d'avoir tous le même but, ça peut aussi avoir des inconvénients. Mais du moins que des jeunes chrétiens puissent avoir une activité ensemble pour apprendre à se connaître, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Avant même de sortir ensemble. Parce que une fois qu'on sort ensemble, on peut connaître combien d'exemples de gens qui ont joué la comédie. Voilà, ils venaient à l'église, ils veulent en apparence de vrais chrétiens. Mais une fois que la bague était au doigt, ça a été fini. La comédie, on a retrouvé la vraie nature. Et comme il a été dit déjà, que ce n'est pas nous-mêmes qu'on peut changer quelqu'un, c'est Dieu lui seul. Dis-moi que dans une église, ou comme quand on voit les jeunes faire des activités ensemble, c'est vraiment chouette. Là, ils peuvent se connaître, sans être impliqué, sans avoir une relation directe. Et je pense que c'est un but à rechercher.
Comme m'a fait remarquer Dominique, que il est toujours temps, tant qu'on n'est pas marié, si on pense qu'on s'est trompé, qu'on est sûr qu'on s'est trompé, il est toujours temps de casser. Et il vaut mieux rompre avant le mariage que après. Si on s'est trompé, si on pense qu'on s'est trompé, c'est vrai que c'est le moment des fiançailles ou alors quand on sort que on doit rompre. Mais il y a toujours une blessure qui reste, donc voilà.
Tes sentiments, et forcément on sortira, on y laissera des plumes.
Parlez juste à l'instant des fiançailles, donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui nous en parle? Est-ce que c'est des habitudes qui arrivent de nos pays occidentaux, christianisés? Est-ce que ça se pratique dans d'autres pays, en dehors des pays christianisés? Je ne pense pas. Et puis, deuxième question, c'est par rapport à l'approbation des parents. Donc, on en a un petit peu parlé. Je pense qu'on doit être en prière avec nos parents, ça c'est le plus important. Mais qu'en penser? Parce que la Bible nous donne des exemples. On a l'exemple de Ruth, l'approbation s'est bien passée. Et puis, je crois l'exemple de Samson, où là, ça s'est moins bien passé.